pour une ville nature. Un cycle Cité Verte Europe organisé par Valor, une campagne financée avec le concours de l'Union européenne.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Immo et Radio Territoria pour notre émission spéciale autour de l'immobilier, du logement et de la nature, ce que la crise sanitaire a changé. Je suis accompagnée pour cette émission de Pierre Darmé. Bonjour Pierre.
Bonjour Anne Solange et bonjour à toutes et à tous.
Et pour en parler avec nous, je suis ravie d'accueillir donc Thierry Pacaud, philosophe de l'urbain, professeur émérite à l'Institut d'urbanisme de Paris. Bonjour Thierry Pacaud.
Bonjour.
Et Bernard Mounier, président de Bouygues Immobilier. Bonjour Bernard Mounier.
Bonjour.
Et nous rejoindrons ensuite Marianne Louis, directrice générale de l'Union sociale pour l'habitat. Et ensuite Thierry Laroupon, président et directeur général de BNP Paribas Real Estate, qui nous rejoindront à peu près vers 11h30. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à notre grand témoin, Michel Audouy, paysagiste, concepteur et secrétaire général de Valor, qui va nous dire quelques mots pour introduire cette émission spéciale.
Bonjour à tous. D'abord, je suis ravi d'être là. La ville nature et la nature en ville sont des sujets essentiels aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'est Valor qui cofinance cette émission et ce programme? C'est une interprofession des métiers du végétal d'ornement, donc à la fois du paysage et de l'horticulture, qui est engagée depuis plus de 10 ans dans le programme Cité Verte, programme européen, qui fait la promotion de la nature en ville. Ce programme se décline en différentes actions nationales, notamment, qui vont de partenariats avec l'Association des maires de France, l'Union sociale pour l'habitat, Cœur de ville, les écomaires, etc. Et puis la valorisation des métiers et des savoir-faire. On en reparlera probablement plus tard, notamment à travers le concours des victoires du paysage, qui va récompenser un certain nombre de maîtres d'ouvrage, publics ou privés, pour la qualité d'une réalisation, de l'échelle du petit jardin, du jardin de particulier, au grand paysage, au paysage naturel, à l'aménagement de la ville et de l'espace public. Voilà. Nous présenterons peut-être plus tard une partie du palmarès.
Merci Michel Audouy pour ces mots d'introduction qui promettent, je pense, de jolis échanges. Pierre, comment va se dérouler ce débat?
Alors, ce débat va se dérouler en trois parties, très classiques. Tout d'abord, on va aborder les grands enseignements de la crise dans ce qu'elle a modifié du rapport des Français à la nature. Et pour cela, qui mieux que Thierry Pacaud pour nous en parler? Nous aurons aussi le témoignage de Marianne Louis dans le logement social et nous aborderons à la fois les espaces publics et les espaces privés. Ensuite, nous aurons le témoignage de deux grands patrons de l'IMO, en l'occurrence Thierry Laroupon, qui viendra dans sa valise avec quelques chiffres issus des études que BNP Paribas a commanditées dès le début de la crise sanitaire à l'IFOP. Et puis Bernard Mounier, président de Bouygues Immobilier, qui est arrivé pendant cette crise sanitaire aux manettes de cette entreprise, après une longue carrière précédemment dans la construction, notamment au sein du groupe Bouygues. Et puis nous terminerons après ces témoignages par un échange délicat de questions courtes, réponses courtes, pour aller un petit peu plus dans la pratique.
C'est super. On va commencer tout de suite par ce débat, ces échanges, et par Thierry Pacaud. Thierry Pacaud, qu'est-ce que la crise, finalement, a changé ou a modifié dans le rapport des citadins à la nature en général?
Bon, c'est très difficile pour répondre à cette question parce qu'on n'a pas d'enquête d'opinion là-dessus. On a juste des impressions. Et bien souvent, on a tendance à généraliser un peu trop hâtivement. Souvenez-vous, quand on avait dit « Ah ben voilà, tous les Parisiens vont quitter Paris pour aller dans des villes plus petites, plus agréables, plus près de la nature, avec des jardins, etc. » Bon, c'est un frémissement, mais on peut pas dire que ce soit une tendance lourde qui nous montre que le rapport des citadins à la nature est fondamentalement changé. Ce qui est important avec la crise sanitaire, c'est que c'est une zoonose, c'est-à-dire que c'est la destruction de l'habitat et de la territorialité des chauves-souris. On n'est pas encore sûr que ce soit des chauves-souris, mais admettons que la Covid vienne de là, qui a provoqué cette pandémie planétaire. Et donc, de certaine façon, l'origine de cette crise est dans la nature et dans la manière dont on a altéré celle-ci. Alors, il faut bien avoir en tête que dans la courte histoire des villes, puisque les villes ont en gros 3500 ans, sont apparues 3500 ans avant notre ère, c'était présenté par les historiens, les archéologues, etc., comme des lieux artificiels, c'est-à-dire où la nature n'avait plus sa place. Ce qui est un peu faux, parce que lorsqu'on regarde les témoignages, cette fois-ci des poètes ou des rares peintres qui ont pu nous montrer des villes grecques ou romaines, il y avait des jardins, il y avait des fontaines, il y avait un rapport comme ça à la nature, mais le rapport à la nature n'est pas de même facture que celle que nous entretenons, nous, aujourd'hui. La nature, pour les Grecs, par exemple, pour les philosophes grecs, la nature, elle est double. Elle est à la fois la nature en tant que qualité spécifique de chaque être, en particulier les humains, nous avons une nature, hein, on dit « ah, ben, telle personne est une bonne nature, voilà, elle réagit toujours positivement bon, ». Et puis de l'autre côté, il y avait tout ce qu'on appelle, nous, aujourd'hui, la nature, c'est-à-dire la faune et la flore, et puis les quatre éléments que les Grecs avaient si bien analysés. Notre rapport à la nature, notre sentiment de la nature, ne fait qu'évoluer au fur et à mesure des siècles. Et donc, je crois qu'il faudrait, pour comprendre aujourd'hui, partir d'un hier qui est assez court, c'est-à-dire celui du 19e siècle et du début du 20e, où là, effectivement, on va avoir une population citadine qui était d'origine paysanne, d'origine rurale. Et donc, c'est l'exode rural qui provoque cette urbanisation que nous avons tous connue dans le monde européen. Et là, évidemment, il y a une demande de nature parce que ce sont des gens qui ont été déracinés, je prends un terme un peu fort exprès, qui ont été déracinés de leur campagne pour arriver dans les villes et qui, évidemment, bah, dès qu'ils le peuvent, retournent dans leur pays, dans leur terroir, dans leur nature. Et donc, on a par Balzac, on a par Zola, on a par Georges Sand, etc., on a par des témoignages de romanciers, cette idée qu'il y a un manque, il y a un manque de nature, et donc il y aura la recherche de petites de fleurs au balcon, de petits squares, etc. Et donc il y a une espèce d'attente pour une population qui était d'origine rurale. Dans nos cas de figure d'aujourd'hui, on est dans quelque chose d'autre, parce que la ville s'est magnifiée à partir justement d'un nouveau rapport qu'elle essaye d'entretenir avec une nature fabriquée totalement. Je pense aux parcs zoologiques, par exemple, qui apparaissent dans la plupart des grandes villes du monde à la fin du XIXe siècle, et puis évidemment les parcs et les jardins. Ce que j'ai observé au moment de la crise sanitaire, c'est qu'effectivement, dès qu'on a pu sortir, dès qu'on a pu être déconfiné, eh bien, les lieux privilégiés de promenade étaient les bords des fleuves dans les grandes villes, à Paris en particulier, mais pas seulement, et puis les parcs et les jardins qui n'ont jamais été aussi remplis. Alors là, est-ce que ça veut dire qu'il y a une sorte de quête de la nature qui serait aussi liée à une transformation sociétale de notre souci environnemental, qui fait que du coup, on aurait une plus grande attention aux arbres, une attention plus importante à ce qu'on appelle la rivière, les bocages, les bois, etc. Ou bien est-ce que c'est simplement le fait qu'il y ait une crise sanitaire ? Moi, je crois que tout ça s'entremêle. On ne peut pas analyser, et on le verra, je pense, dans 2-3 ans, avec un peu de recul, on ne pourra analyser les rapports des citadins, et pas seulement des citadins, avec la nature, au moment de la crise de la Covid, liés à cette montée en puissance d'une conscience environnementale, mais qui ne se traduit pas, comme on l'a vu récemment dans les élections, qui ne se traduit pas par une montée en puissance des partis qui se revendiquent de l'écologie. Pas du tout. Non, c'est un nouveau rapport à la nature qui passe par une nouvelle manière d'imaginer sa santé.
Mmh. Mais c'est vrai que
la crise sanitaire, elle provoque avant tout ça.
Pardon Thierry Paco, je vous coupe, mais c'est vrai que pendant le premier confinement, on a quand même eu un accès aux espaces verts publics interdits, alors que on le sait, c'est historique finalement dans la ville. Hein. Comment cette fermeture a-t-elle été vécue à ce moment-là par les citadins et en particulier dans les zones plus denses ?
Très mal, évidemment, parce que c'est une banalité de le dire, mais un parc ou un jardin, c'est une respiration, évidemment.
Eh oui.
C'est une respiration dans la ville, mais c'est aussi une respiration pour tous les citadins, quel que soit leur âge, du reste, et quels que soient les usages qu'ils font de ces lieux. Parce qu'il y en a, ils y vont courir le matin ou l'après-midi, peu importe. D'autres, ils y vont jouer, d'autres, ils y vont siester, d'autres, ils y vont parler, dont ils y vont pour être promenés par leur chien. Et toutes ces activités-là ont besoin d'un cadre qui est le dehors. Mmh. En fait, derrière cette idée de nature, et vous avez raison de pointer le fait que c'était un manque, et que c'était peut-être pas une bonne idée de les fermer, du reste, parce que médicalement parlant, on n'a pas eu de certitude que c'eût été des lieux de prolifération de la maladie. Mmh. Non, je crois que il y a cette idée que la vie de chacun est une vie qui comprend cette espèce de dialectique entre le dehors et le dedans, et on l'a encore davantage perçu auprès des enfants qui ont été privés de cours de récréation, qui ont été privés de classe promenade, etc. C'était encore plus dur pour eux parce que le corps de l'enfant qui grandit en lui-même, eh bien, il grandit au contact de l'extérieur. Et donc, il faut ces activités physiques, comme on dit, qui sont des activités de plein air. Et donc, là, je crois qu'on a été, vraiment pénalisés, il n'y a pas d'autre terme, par la Covid et par les décisions gouvernementales. Je ne veux pas dire que ce soit facile à prendre, mais c'est vrai que être confiné, et surtout en plus avec un couvre-feu, modifiait notre sentiment de liberté. Et notre sentiment de liberté, c'est tout à fait passionnant à étudier, va avec cette espèce de rencontre avec la nature qui est comme la possibilité même de notre liberté d'action. Mmh. Et donc, notre nature, la nature autour de la ville, la nature dans la ville, eh bien, elle vient renforcer notre nature interne à chacun d'entre nous, êtres humains, celle de pouvoir être le plus autonome possible.
Merci.
Merci beaucoup Thierry. Vous êtes à distance car vous préparez un festival que nous vous invitons toutes et tous à aller voir, un festival autour des mots. Et on sait à quel point ce sujet vous passionne. Vient de nous rejoindre Marianne Louis, directrice générale de l'Union sociale de l'habitat. Alors, dans ce que vous dites, Thierry, je relève un point important. Vous parlez de santé, et nous aurons dans les prochains épisodes de ce cycle Ville-Nature l'occasion de parler de l'impact des espaces de nature sur la santé, notamment la santé mentale. Donc ça ouvre des perspectives pour d'autres débats assez intéressantes. Vous avez dit effectivement que les espaces ouverts, extérieurs, pour ne pas dire les parcs et les jardins, ont été pris d'assaut une fois que le confinement strict a été levé. Et effectivement, Anne Solange, vous l'avez souligné, les extérieurs nous étaient fermés. Ça me frappe beaucoup. Et comme aurait dit un certain humoriste dans les années 80, nous ne sommes ni pour ni contre. Bien au contraire, ça n'est pas à nous de juger des décisions. Peut-être une question pour Marianne Louis que nous avons en tête. Anne Solange.
Oui, comment les habitants en fait, de logements sans ces espaces extérieurs, c'est-à-dire des jardins privatifs, des terrasses, même ne serait-ce qu'un petit balcon, ont vécu cette période? Est-ce que pour vous, c'est riche d'enseignement? Qu'est-ce que ça évoque pour vous?
D'abord, quand même, je vous rassure, il y a quand même une partie du parc social dans lequel on a des balcons, des terrasses et même du logement social en maison avec des petits jardins. Donc, fort heureusement, toute une partie de nos locataires ont pu avoir accès à ces aménités. Mais même ceux, d'ailleurs, qui avaient un balcon pouvaient pour autant regretter de ne pas pouvoir aller dans ces parcs qui ont été évoqués, parce que je crois que c'est un lien à la nature, mais c'est aussi un lien à la convivialité, à la rencontre. Et c'était ça qu'il fallait éviter, en tout cas qui était recherché, c'est éviter ce type de contact, et donc même ceux qui ont un balcon ont pu en souffrir. Ceci dit, après, ce qui est vrai, c'est qu'on a un certain nombre, on a en tout cas un parc de 4 millions de logements, dont des logements qui ont une histoire, notamment je pense à des périodes de construction dans lesquelles il y a eu beaucoup moins d'attention à ces espaces extérieurs, sur lesquels effectivement c'est des logements sans balcon, sans espace extérieur. Ça a été extrêmement compliqué à vivre pour nos occupants, comme je pense pour toutes les personnes qui vivent vivent dans des appartements sans balcon, sans espace extérieur, aussi bien dans le parc privé. Ce qu'on a constaté, d'ailleurs ça doit nous amener à réfléchir, c'est que là où il y avait un espace d'hyper-proximité, c'est-à-dire non pas un parc, parce qu'un parc, effectivement, fallait traverser la rue, etc., fallait aller dehors, mais là où il y avait ce qu'on appelle un espace résidentialisé, une cour d'immeuble, un pied d'immeuble où on pouvait s'installer, où malgré tout les enfants pouvaient faire une petite partie de foot l'après-midi, où les voisins se croisaient, pouvaient se parler tout en étant à l'extérieur, etc., ça a beaucoup mieux fonctionné. Et ça doit nous amener à réfléchir, je pense, dans la façon dont on travaille sur l'aménagement urbain. On a toujours beaucoup travaillé, notamment en renouvellement urbain, sur cette idée qu'il fallait des squares de proximité, etc. On pense qu'il faut des squares de proximité, évidemment, mais maintenant on se rend compte que l'enjeu de la convivialité, du vivre ensemble, se joue vraiment à l'échelle de l'immeuble, et que dès qu'il y a un espace partagé à l'échelle d'un immeuble, ça a permis de renouer ce lien à la nature, à l'extérieur et aussi aux autres. Ce qui était recherché.
Ça me fait penser, et Thierry Pacot, peut-être que vous pouvez nous en dire un mot, tout simplement, aux cités jardins de cette fin du 20e, début, fin 19e, pardon, début 20e, notamment avec Ebenezer Howard, qui tout simplement ramenait cette nature en ville avec ce besoin pour les ouvriers de cette même nature, cette présence du végétal. Peut-être que vous pouvez nous en dire deux mots, Thierry.
Oui, bien sûr. Donc, c'est un homme qui avait introduit la machine sénotypiste à la Chambre des Lords, donc un citadin vraiment parfait, qui s'était aperçu que la surdensité, vous voyez, c'est amusant en même temps parce qu'à la fin du 19e siècle, ce qu'il fallait était désigné comme étant finalement nocif, était la surdensité. Aujourd'hui, j'ai entendu pas mal de spécialistes de la ville dire au contraire, il faut surdensifier les villes pour éviter l'étalement urbain. Vous voyez, c'est un vrai débat de fond. Vous connaissez ma position. Je crois évidemment qu'il faut penser à une intensité relationnelle et non pas à une densité comptable du nombre de personnes réparties sur un même espace. Donc, pour revenir à la cité jardin, en fait, Ebenezer Howard pensait qu'on avait déraciné trop de gens pour les faire venir en ville et qu'il fallait leur redonner leur cadre champêtre. Et donc, il a imaginé des villes qui auraient au maximum 32, 35 000 habitants, dont 2 000 agriculteurs. C'est ça qui est excessivement important. Et la première cité jardin qui commence à sortir de terre en 1903 à Letworth, au nord de Londres, est une cité jardin dont le sol est la propriété de la coopérative. Ça, c'est un point très important. C'est parce que dès qu'on dessine cette cité jardin, il y a des terrains réservés exclusivement à l'agriculture, d'autres exclusivement réservés pour des forêts, des pâturages, des bois ou des jardins collectifs qui ne seront jamais bâtis. Et aujourd'hui, plus d'un siècle après, à Letworth, eh bien, nous avons encore ces terrains qui n'ont pas été construits. Donc, il y a là un rapport au foncier, c'est un vrai sujet hein, pour votre série d'émissions. Penser une ville verte, ça veut dire aussi éviter la spéculation immobilière, bien évidemment, parce qu'un mètre carré à Paris vaut tellement cher qu'on n'a aucune envie, évidemment, d'en faire quelque chose pour rien. Et je joue sur les mots, bien sûr, qui serait un jardin. Alors que ce rien, évidemment, pour moi, est excessivement important. Il n'a pas de prix, mais il a une valeur fondamentale. Et donc, pour venir à la cité jardin, ce sont des maisons qui appartiennent aux habitants, mais le sol ne leur appartient pas, il est de la coopérative. Et il y a une diversité incroyable des formes architecturales. Il y a à chacun, évidemment, à son potager, son petit verger, donc son jardin privé, entre guillemets, et puis en même temps, il y a cette espèce de présence de la nature absolument partout. Mais Ebenezer Howard n'est pas, comment dirais-je, quelqu'un qui tomberait dans une sorte de rousseauisme. Non, chacune de ces cités jardins, quelles qu'il les imagine, est reliée par le chemin de fer électrique aux autres grandes villes qui sont environnantes. Et donc, quand il y a une ville qui est pleine de ses 30 000 habitants, on en crée une autre cité-jardin, une Garden City, on en crée une autre, et l'ensemble de ces cités-jardins constitue ce qu'il appelle la cité sociale. Donc on voit qu'il y a un projet de société derrière l'idée de cité-jardin. Quand celle-ci est introduite en France, ça devient plutôt des faubourgs-jardins, comme Suresnes, avec Henri Sellier, qui était un homme important qui, par ailleurs, a été ministre de la Santé sous le Front populaire. Donc, on voit bien aussi les liens qui entre tous ces éléments-là. Et Henri Sellier est le créateur de l'École des hautes études urbaines en 1919 avec Marcel Poète, qui deviendra l'Institut d'urbanisme où j'enseigne. Donc, on voit bien que cette préoccupation de la santé va avec la préoccupation du cadre de vie, l'expression n'existait pas à l'époque, qui est d'essayer de concilier ville et campagne en quelque chose qui releverait, moi je l'appellerais plutôt une ville-paysage, une ville-territoire. Mais pour revenir à ce qui a été dit précédemment, j'ai été un des premiers, par hasard du reste, à évoquer le balcon, parce que au moment de du premier confinement, souvenez-vous, on allait applaudir les personnels des hôpitaux pour les remercier de tout le travail qu'ils faisaient. Eh bien, le balcon était devenu le trait d'union entre ce fameux dehors et dedans. Et je donnais la citation que je trouve très très belle d'une architecte qui a construit beaucoup d'appartements sociaux avec des terrasses, mais pas des balcons ridicules où on peut même pas poser une chaise, avec des terrasses. Et elle a eu cette formule magnifique de dire que le balcon et la terrasse jardinée étaient la politesse de la maison. Alors je crois que il nous faut que les bailleurs sociaux, eh bien, accroissent la politesse de leur logement.
Merci.
Que ces logements soient devenus.
Alors Thierry, merci. Le téléphone sonne et nous allons laisser la politesse à Marianne Louis pour que vous puissiez répondre.
Non mais ce qui.
Non, j'ai coupé, rassurez-vous.
Très bien. Bah, écoutez, non mais ce qui est dit est extrêmement intéressant. Ça appelle plusieurs réflexions. Et d'abord et avant tout le fait que nous, ce dont nous sommes maintenant convaincus, le confinement l'a mis en avant, mais on avait déjà un travail qui avait été fait notamment dans le cadre de ce qu'on appelle la rénovation urbaine dans les quartiers. On a une conviction, c'est qu'il faut systématiquement maintenant, quand on construit des logements, penser également les espaces extérieurs qui sont liés à ces logements à des échelles différentes d'ailleurs. C'est pas parce qu'on a un très bel espace qui peut être à 500 mètres, un grand parc, etc., qu'il faut pas avoir un espace plus petit mais d'hyper proximité. Donc ça, c'est quelque chose dont on a pleinement conscience. Il faut aussi se rendre compte que il faut tenir compte des modes de vie et des usages des habitants, et puis il y a sans doute de la pédagogie à faire également. Je vais prendre quelques exemples. On a des choses aujourd'hui qui se développent et on diversifie beaucoup les formes d'intervention, par exemple dans ce qu'on peut appeler l'habitat participatif avec des jardins partagés, etc. C'est extrêmement intéressant. Il y a des habitants qui sont très stimulés pour rentrer, pour aller dans ce type de logement. Mais à l'inverse, il faut quand même, on loge aussi des publics très différents. Par exemple, je vais vous donner un exemple, hein, une caissière célibataire avec 3 enfants, on ne peut pas lui imposer en plus d'aller entretenir un bout de jardin le week-end. Mmh. Il faut donc aussi penser que selon les usages, selon les habitants, il faut avoir une multitude et une diversité d'offres. Pour autant, il faut s'assurer que cette dame, elle a tout près de chez elle un espace vert où ses enfants peuvent apprendre à faire du vélo, parce que je suis d'accord, on n'apprendra jamais à faire du vélo sur un balcon, peuvent se détendre, etc. Donc il faut trouver cet équilibre, et c'est tout l'intérêt, l'importance d'avoir dans les équipes qui travaillent avec nous, à la fois des architectes et des paysagistes, parce que ça permet de réfléchir cet ensemble. Ça se fait aussi avec les collectivités locales, parce que le bailleur ne peut pas porter tout l'espace public. Une grande partie de l'espace public, il a vocation à être porté par la collectivité locale, à être prévu dans l'opération d'aménagement, d'où nos relations avec les aménageurs autour de ces réflexions-là. Mais maintenant, cette demande, elle est permanente. Et effectivement, il faut qu'on évite qu'elle se traduise, parce qu'on connaît tous l'enjeu, on a tous cette responsabilité collective de long terme. Il faut qu'on évite qu'elle se traduise par de l'étalement urbain. Donc si on ne veut pas aller vers de l'étalement urbain, il faut faire des propositions alternatives. On peut ça appeler la question de l'intensité, la question de la densité, mais il faut trouver ces équilibres. Et puis vous avez évoqué, je finirai là-dessus, parce que c'est aussi des réflexions qui sont en cours, et c'est l'intérêt de la période, c'est que c'est une période qui fait réfléchir. Vous avez évoqué la question, ce modèle dans lequel il y avait des agriculteurs. Alors je crois que, d'abord, on réintroduit des formes d'agriculture en zone urbaine, des formes d'agriculture qui, évidemment, ne sont pas d'une intensité telle qu'elles permettent d'assurer l'autosuffisance des quartiers, mais ça permet de renouer ce lien. On en voit, hein, c'est ce qu'on appelle quartier fertile, à travers aussi tout ce qui est autour du développement des activités mellifères. Et puis, on a même des réflexions qui sont aujourd'hui un peu à l'état embryonnaire, mais on voit quelques bailleurs qui le font, de réfléchir comment on peut utiliser nos sous-sols, comment on peut utiliser des plateaux pour participer à de la production. Je pense par exemple à un bailleur comme ICF qui a utilisé ses sous-sols pour installer des agriculteurs qui font des champignons, des champignonnières, des choses comme ça. Donc cette réflexion de savoir comment la ville, sans être complètement autosuffisante, participe quand même à sa propre nourriture, à la façon de se nourrir et de s'équilibrer, doit commencer à nous interpeller. C'est aussi toute la réflexion autour des circuits courts. Mais en tout cas, on a besoin effectivement d'avoir une vision cohérente et de l'importance de travailler avec l'ensemble des professionnels de la chaîne pour construire cette réflexion.
Alors, vous parlez de mellifères. Ce plateau est une ruche. Nous allons bientôt accueillir Thierry Laroupon. Mellifères, pour les non-initiés, ce sont des fleurs qui sont riches en pollen et en nectar et qui permettent aux pollinisateurs à la fois de se nourrir et de féconder les fleurs. Sans plus attendre, on va passer à la deuxième partie avec Bernard Mounier. Vous avez entendu beaucoup de choses et nous nous disions en off qu'au fond, un jour, tout le monde sera aligné, public, privé, bailleurs sociaux, promoteurs. Alors, il y a une particularité, Monsieur Mounier, vous êtes arrivé à la tête de Bouygues Immobilier, si mes informations sont exactes, entre deux confinements, en tous les cas, en pleine crise. Et vous n'êtes pas ici complètement par hasard, puisque vous venez nous parler d'engagement sur le sujet. Qu'est-ce que, au fond, cette crise a changé dans votre rapport de promoteur avec la nature ?
Alors, comme le disait tout à l'heure M. Paco, la crise, fondamentalement, elle ne change pas. On n'est pas capable de mesurer tout de suite ce qu'elle a changé. On est capable de se dire qu'elle va accélérer certains constats. Les constats sont simples. Les villes, fondamentalement, sont en train de devenir plus denses, plus chaudes, même si on n'aime pas ce mot de densité. Et puis, il y a un paradoxe terrible. On est en train d'opposer, finalement, la nature, la campagne et la ville. Or, la ville a une fonction. Et fondamentalement, on est confronté à la réalité de... On ne peut plus artificialiser du sol à la campagne. Il faut préserver des zones à la campagne. Et donc, il va falloir que les populations vivent la ville de façon plus agréable. Le confinement a révélé... Alors, avec la problématique de ne pas pouvoir sortir dans les espaces verts publics, les parcs, mais il a révélé fondamentalement que la nature n'était pas en ville. Et que la nature qui n'était pas en ville ne permettait pas d'avoir, même si ponctuellement, certaines initiatives ont été tentées, ce n'est pas quelque chose, c'est pas une démarche de fond. Et donc, Thierry arrive. Bonjour Thierry. Et donc, ce que change cette pandémie, c'est de se dire, finalement, il n'est pas temps de faire rentrer la nature en ville et de rendre la démarche un peu systématique pour faire que la ville devienne acceptable. Avec deux avantages. Quel est l'usage que l'on veut faire de la ville pour qu'elle soit acceptable, pour qu'on puisse y vivre bien, sans avoir besoin systématiquement de se dire que pour vivre bien, il faut aller respirer à la campagne. Comment fait-on pour respirer dans des espaces partagés? Comment fait-on pour attirer des populations dans cette ville, des jardins partagés, des espaces plus larges, des balcons, de la nature? Et je pense que la profession et l'ensemble de la profession, tous les acteurs, que ce soit les acteurs privés ou les acteurs publics, ont pris conscience de ça et ont mis en place des démarches plus systématiques. Alors elles existaient, ces démarches, elles sont plus ou moins embryonnaires. Bouygues Immobilier est parti il y a quelques années sur les labels biodiversity, a commencé à travailler sur des sujets de rooftop paysagers, sur des sujets de sous-sol planté pour faire de l'agriculture urbaine. La différence, c'est que je pense qu'il faut passer à une réflexion systématique sur chacun des projets, à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'un aménagement ou à l'échelle d'un immeuble. La ville peut redevenir plus verte que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Il y a des solutions techniques avec les paradoxes qui sont le coût du foncier, la densité et le fait qu'effectivement, quand on fait des espaces verts, ils sont moins rentables pour les ceux qui en tirent un avantage, mais ils sont plus rentables pour la société d'une façon générale.
Alors, Monsieur Mounier, vous avez... Bouygues a notamment remporté la victoire d'argent lors des victoires du paysage 2020 organisées par Valor et dont le palmarès a été dévoilé le 20 mai dernier pour le projet de la résidence Émeraude à Brétigny-sur-Orge. Malgré tout, Bouygues Immobilier n'est pas spécialement connu pour son positionnement nature. Quels sont les engagements de votre entreprise et est-ce que vous avez peut-être à nous communiquer un ou deux projets phares ou pilotes que vous menez en ce moment ?
Alors, le problème que l'on a, c'est un peu comme Marianne disait tout à l'heure, c'est que finalement, on ne met pas assez en avant ces projets. Mais ces démarches, elles existent. Je vous parlais du label biodiversité chez Bouygues Immobilier, ça date de 2014. Alors, les premières démarches, c'est 2014. Les premiers rooftops, ça a pratiquement une dizaine d'années. Bon. Mais on n'en parle pas et on n'est pas dans une démarche, finalement, je reviens à ma démarche systématique. Le Covid actuel et la crise actuelle, faire sortir l'urgence. L'urgence climatique fait que, quelque part, on se pose cette question. Comment on peut faire plus? Alors, comment faire plus? En mettant en place des outils. Bon. Et chez Bouygues Immobilier, on a décidé de mettre en place un outil qui est une calculette. Alors, on a travaillé avec des écologues, une calculette biodiversité qui permet de se dire, est-ce que je prends tous mes projets, je les passe au travers de cette calculette et je mesure si finalement, à l'issue de ce calcul, j'ai un projet qui respecte la biodiversité, qui augmente la biodiversité, qui diminue l'artificialisation de l'endroit où je vais travailler. Si ce calcul démontre qu'il est positif, ben quelque part, je suis vertueux. Alors, au stade actuel, je ne peux pas vous dire que 100% des projets de Bouygues Immo remplissent cette fonction-là. Mais l'idée de Bouygues Immobilier, c'est de se dire qu'on passera 100% de ces projets à cette calculette. Et notre objectif, c'est que, à l'horizon 3 ans, on se fixe un objectif, généralement les grandes entreprises se fixent des objectifs à 3 ans, c'est de se dire qu'on aura au moins 50% de nos projets qui seront des projets dans lesquels on aura une ce qu'on appellera de la biodiversité positive, et moins d'artificialisation et plus de nature dans la ville finalement.
Très bien, c'est intéressant. Et Marianne...
Si je peux me permettre, une petite formule. On voit bien que les espaces verts sont rentables, puisque vous allez toujours sortir la calculette et dire qu'à la fin, c'est positif.
Oui, mais je crois qu'il faut abandonner cette idée de, finalement, quand on fait des parcs, finalement, c'est des espaces qui ne rapportent pas. Si, ils rapportent le fait qu'on aura envie d'habiter en ville. L'autre problème de la ville, c'est qu'on le voit aujourd'hui dans l'espèce de rejet qu'ont les municipalités aujourd'hui à construire. Vous voyez qu'il y a un rejet systématique aujourd'hui qui s'organise, qui est de dire finalement, quand je construis, je densifie. Quand je densifie, j'ai un rejet de la population qui habite dans cette ville. Il faut qu'on lutte contre ça. Et je pense que faire rentrer plus la nature en ville, parler des cités-jardins, on parlait des immeubles sur lesquels on peut avoir des terrasses en dégradé pour avoir des espaces verts à l'intérieur, tout ça concourra à faire une ville plus verte, plus respirable et plus agréable.
Marianne-Louis, vous avez aussi constaté comme ça des modifications, des évolutions dans les usages, notamment je pense au cœur d'îlot, vous parliez tout à l'heure qu'il y avait ce besoin de retour à une nature nourricière. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous constatez dans les évolutions, ce vrai retour à la culture finalement en ville?
Alors c'est quelque chose qui existe quand même depuis, ça fait maintenant plusieurs dizaines d'années qu'on travaille notamment avec les associations type jardin partagé. Et on a effectivement, dans un certain nombre de quartiers, notamment des demandes extrêmement importantes pour bénéficier de jardins partagés. Moi, je connais des quartiers dans lesquels il y a des listes d'attente pour avoir accès à un jardin, ce qu'on appelait historiquement un jardin ouvrier. Hein. C'est au pied de l'immeuble, une bande sur laquelle il y a des parcelles de 150, 200 mètres carrés que les usagers s'engagent à entretenir pour avoir une activité potagère, notamment. C'est extrêmement demandé, c'est de plus en plus demandé. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, il ne faut pas se tromper. Il y a derrière un enjeu économique. Ça permet aussi de se nourrir. Nous, on a quand même des locataires, hein, dont plus de la moitié sont en dessous du seuil de pauvreté. Donc avoir accès à de la nourriture, autoproduire une partie de sa nourriture et savoir en plus que c'est de la bonne qualité, etc., c'est très important. Après, ça demande du temps, mais on est aussi en face d'un sujet qui est celui du vieillissement de nos occupants. On a 25% de nos occupants qui ont plus de 65 ans. Donc on a des retraités qui sont en forme et qui ont envie, qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens pour voyager, etc. Donc pour eux, avoir ce type de lopin pour pouvoir pratiquer une activité, c'est extrêmement important. Ça joue sur leur santé, évidemment. Après, ça nécessite de faire de la pédagogie. C'est un petit peu comme cette question. On parle beaucoup de l'installation des espaces verts. Je pense qu'il y a vraiment un sujet qui est de la vie dans le temps de ces espaces verts. Soit c'est les habitants qui s'en occupent. Ça peut être le cas dans le cadre des jardins partagés, de l'habitat participatif. Soit il faut que ce soit conçu et pensé. Nous, c'est un vrai sujet avec nos adhérents sur lequel on doit travailler.
C'est une question excellente qui fera partie du dernier tour de piste tous ensemble. Thierry Laroupon nous a rejoint. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc le président directeur général de BNP Paribas Real Estate. Même question en fait pour Bernard Mounier et vous à propos des usages. Vous, Thierry, vous accueillez sur votre siège actuel et sur votre siège futur un potager. Nous aurons, dans la deuxième émission, resté à l'antenne jusqu'à 13h, le témoignage de Catherine Papillon, la bien nommée, si je puis dire, pour ce panel, qui nous expliquera la genèse de ce projet. Donc vous avez un recul par rapport à ça, et vous avez probablement quelque chose à nous dire. Et Bernard Mounier, la semaine dernière, à l'occasion de Vivatech, vous êtes exprimé sur la révolution du design, en disant que ce n'était pas une révolution technologique, mais que c'était une révolution des usages. Alors, rapidement, chacun d'entre vous, qu'est-ce que vous pensez de ce sujet-là?
Vas-y, Thierry. Ok, merci Bernard. Ravi d'être avec vous. Et puis, c'est un studio qui est très agréable, parce que ça sent bon, il y a du verre partout, c'est vraiment très, très agréable. Donc, effectivement, vous faites bien de mentionner notre siège actuel, puisque notre siège actuel, à l'origine, la terrasse dont vous parlez, c'était une terrasse de direction, avec tout ce que ça veut dire. Il n'y avait pas beaucoup d'arbres. Et puis Catherine est passée par là avec les piliers de la RSE. C'était à l'époque Inspire Real Estate 2020 en français. Et Catherine nous a dit, c'est pas possible d'avoir un usage exclusif. C'est pas ouvert aux salariés. Ça donne pas une image qui est top. Et les 600 mètres carrés sont devenus un petit peu de la permaculture. On peut même le dire comme ça. On a traité avec Mugo et une start-up qui s'appelle Peace and Love pour l'entretien. Et les collaborateurs ont pu souscrire un abonnement qui peuvent avoir accès à ces espaces verts d'une part, et d'autre part, des légumes, des fruits, etc., etc. Et puis, on a un petit potager expérimental. Donc, c'était 600 mètres carrés, qui était un petit peu la start-up nature chez BNP Paribas Real Estate. Et pour être encore plus complète, Catherine nous a dit, il faut aussi qu'on ait des ruches. Et à l'époque, ça semblait un petit peu ésotérique comme approche. Mais comme tout le monde aime bien Catherine chez nous, on a dit, on y va. Dans le futur siège social, les 600 mètres carrés deviennent 3600 mètres carrés. De rooftop, avec des ateliers pédagogiques qui vont être ouverts à l'extérieur, avec différentes essences, avec des choses qu'on va pouvoir cultiver, ensemencer, et puis, j'espère, les manger sur place, donc avec un circuit court, on va voir. Mais en tout cas, Catherine nous pousse pour aller sur ces sujets-là. Et c'est quelque chose qui est très important parce qu'on va bien au-delà d'une simple communication. Donc, en gros, on a commencé il y a quelques années sur quelque chose qui était quand même assez local. On tatillonnait un petit peu. Et puis là, c'est quelque chose qui est vraiment plébiscité par les groupes de travail qu'on a, et c'est un impact aussi auprès de l'investisseur qu'on a trouvé, puisqu'en fait on a vendu l'opération à Caisse des dépôts ACM, et ça fait partie des sujets qui ont été regardés très très près par les investisseurs. Donc c'est aussi créateur de valeur pour l'entreprise, pour nos partenaires et pour les investisseurs.
On va vous laisser la parole plus longuement, Thierry, pour exposer les conclusions des sondages que nous avons annoncés depuis le début de cette émission avec l'IFOP. Bernard Mounier, votre réaction?
Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Thierry. La particularité, c'est que pour des sièges sociaux qui sont gérés de façon centrale, c'est plus facile d'organiser finalement le fonctionnement de ces grands espaces. Donc il faut décider de les programmer, il faut avoir la volonté de le faire, ce qu'a fait Thierry sur son nouveau siège, et ce qu'on essaie de proposer dans les opérations que nous développons pour des sièges d'entreprise et qui, quelque part, a beaucoup d'audience, beaucoup d'écoute. On a envie de ça. La difficulté, c'est quand on fait des programmes de logement, comme l'a dit Marine tout à l'heure, c'est comment faire pour que les usagers de ces logements, finalement, prennent en compte cette nature que l'on met à disposition. On a des exemples de rooftop sur laquelle on a, au début, quand on tatillonnait un petit peu, aménagé des jardins ou des potagers, et qui fondamentalement ne fonctionnent pas parce que personne ne va gratter la terre pour faire pousser des tomates. Donc la problématique, ce n'est pas celle-là, c'est de mettre en place, en plus de ces espaces à disposition de tous, une façon de les utiliser. Et donc nous, on a mis en place un programme d'accompagnement qui permet, sur un certain nombre d'années, de créer l'envie générale de la collectivité qui habite d'utiliser ces espaces et pour l'agrément et éventuellement pour se nourrir quand ce sont des jardins partagés. Ensuite, derrière, si effectivement il n'y a pas de prise et que quelque part, effectivement, le public qui loge dans ces logements n'a pas envie de le faire, il faut quelque part qu'on prenne ça en charge et qu'on essaie de pousser ou la mise en place d'organisations qui, elles, vont y trouver un intérêt. Donc si on prend par exemple des entreprises qui sont capables d'exploiter ces jardins et de mettre à disposition des fruits et des légumes à proximité dans l'immeuble, effectivement, on va trouver le moyen de rendre cet usage viable. C'est un peu la même chose que de faire des grands espaces partagés, des jardins au pied d'immeuble, qui quelque part, s'ils ne sont pas entretenus, s'ils ne sont pas considérés par la population qui y habite, vont devenir des zones mortes. Donc il y a un sujet d'éducation, et je pense que notre rôle, c'est aussi de mettre en place, avec l'aide de l'écosystème présent, il y a beaucoup de start-up qui travaillent là-dessus, la vie avec ces espaces-là. Et les professionnels, il faut les créer avec des professionnels, parce que fondamentalement, Thierry comme moi, on n'est pas des professionnels des jardins, des créer des professionnels, avoir des espaces qui sont simples, qui ne nécessitent pas beaucoup de moyens d'entretien, et quelque part donner une chance à ces espaces de vivre et d'être pérennisés.
Alors, nous, professionnels, buvons du petit lait, si je puis dire, puisque Valor est l'interprofession du végétal, comme l'a dit Michel Audouy tout à l'heure, avec des professionnels dans la conception des espaces, et effectivement, on va de plus en plus vers la co-conception, faire avec. Il y a un architecte qui n'est donc pas du métier, qui s'appelle Thierry Roche, et qui dit souvent, pour le sujet des espaces collaboratifs, je livre des espaces capables. Capables qui ont un potentiel. Et c'est au fond la même chose, et c'est ce qui différencie, et ça c'est le deuxième volet qui va nous tenir à cœur, le jardinier du maçon, plutôt que de livrer un ouvrage pour lequel on doit une garantie, notamment une garantie décennale, nous livrons un potentiel, et c'est main dans la main entre le jardinier qui devient un médiateur et les usagers qu'on va pouvoir l'aider à se révéler. Alors on va y revenir en toute fin. Simplement, Thierry Laroupon, donc dès le début de la crise sanitaire, BNP Paribas Real Estate a commandité différentes enquêtes à l'IFOP que vous avez avec vous. Et ça donnera un petit peu d'eau au moulin dont nous parlait Thierry Paco tout à l'heure, qui disait à juste titre, il est encore trop tôt pour tirer des enseignements de la crise sur le rapport que nous pouvons avoir avec la nature et nous manquons de chiffres. Or, parmi les chiffres, sans dévoiler ces éléments, il y a des choses sur le rapport des Français, notamment avec l'extérieur que Thierry a évoqué tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Oui, alors on a lancé en fait une série d'études avec l'IFOP sur un échantillon d'un peu plus de 1500 personnes au-delà de 18 ans. Et on l'a séquencé en deux fois parce que c'est vrai que la première fois qu'on l'a fait, c'était au début du premier confinement. Donc les gens manquaient de recul, hein, parce que c'était quand même, je dirais, un télétravail sanitaire imposé. Hein. Donc moi, je veux bien qu'on soit tous très euphoriques sur le télétravail, mais il faut reconnaître que la première partie, elle n'était pas choisie, elle était imposée. Et donc les premiers retours qu'on avait étaient assez contradictoires, parce qu'en gros, vous aviez 50% des gens qui trouvaient que c'était plutôt très bien, mais plus on montait en CSP+, avec des gens avec des appartements sympathiques, plus les taux étaient favorables. Ce qui fait qu'on avait une moyenne qui ne voulait pas dire grand-chose, parce qu'elle agrégeait des extrêmes. Alors après, avec le recul, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que la seule chose qui soit véritablement plébiscitée, et avec du recul c'est confirmé, c'est ces notions d'espace vert, d'espace extérieur, de terrasse. On est à 81%. Voilà. Donc la seule chose qui, depuis le début du confinement jusqu'à maintenant, et qui soit confirmée, c'est ça. La seconde chose avec le recul que je peux commenter, puisque c'est un recul d'un an et demi, c'est que notre industrie est en train de connaître une véritable révolution des usages, parce qu'on est passé d'un télétravail sanitaire imposé et un peu subi en fonction des domaines d'activité, puisque c'est clair que quand vous êtes dans les services financiers ou quand vous êtes dans les services tout court, vous pouvez télétravailler. Quand vous êtes dans l'industrie, dans la production, c'est parfois quand même beaucoup plus compliqué. Donc on va être sur ce sujet d'hybridation des usages. On aura une troisième conséquence qui va être effectivement le produit bureau va être durablement impacté quantitativement par ça. On considère que la demande placée va bouger de 20 à 25%. Dès lors, moi, j'y vois une chance, et je sais que Bernard est aussi là-dessus, pour qu'on propose à nos investisseurs, à nos utilisateurs et à nos acheteurs privés des usages mixtes, où on aura un panachage entre un socle actif au rez-de-chaussée, avec des hubs de mobilité, avec des commerces de proximité, une hybridation des logements à la fois social, accession, mixte, etc., etc., et peut-être du co-living, et puis des tiers-lieux, des espaces de bureaux classiques, le tout avec de larges terrasses et des rooftops. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne. Auparavant, les investisseurs étaient assez frileux sur ces hybridations, et maintenant, on est très, au contraire, sur des investisseurs qui nous disent « mais venez nous voir, parce que ça représente une division du risque, et c'est exactement la traduction de ce dont tu parlais, qui sont les espaces capables, c'est-à-dire des espaces qui pourront être également réversibles. Donc dans l'offre de service que nous, c'est la conséquence pour BNP Paribas Real Estate, première conséquence, on a fusionné toutes les équipes de promotion entre le tertiaire, le résidentiel, les usages mixtes. Deuxième conséquence, dès le début du Covid, on a pris 4 ou 5 engagements sur le logement post-Covid, avec notamment la mutualisation du rooftop à l'ensemble de la copropriété et des habitants de la copropriété, le fait d'avoir obligatoirement des logements avec des espaces extérieurs, terrasses, balcons, le droit au Wi-Fi avec le fait qu'on alimente les opérations de logement en Wi-Fi, On a pris des participations dans une start-up qui s'appelle OUI, qui est en fait la vision renversée d'IMO, avec des cloisons qui peuvent bouger et qui peuvent donc accompagner la modularité du logement. Bref, tous ces engagements-là, et puis évidemment tout ce qui est autour de l'univers technologique, du contactless, pour des raisons sanitaires évidentes. Donc voilà un petit peu les enseignements qu'on a tirés des sondages qu'on a fait avec l'IFOP. Encore une fois, il faut être humble, ces sondages sont arrivés au tout début du confinement, on a voulu les réinterpréter un an et demi après.
Alors Anne Solange, une question pour le dernier tour, puisqu'il est déjà 11h46 et nous arrivons bientôt au terme de cet échange. C'est toujours très frustrant, mais au moins les échanges sont lancés et pourront se poursuivre avec vous, chères auditrices, chers auditeurs, et puis avec vous, intervenants. On a vu le sujet de la nature des espaces, du fait qu'on y voit peut-être un peu plus clair ou que ça confirme des tendances déjà à l'œuvre. Vous avez esquissé quelques outils. Le label Biodiversity, signalons, c'est important que BNP Paribas Real Estate et Bouygues Immobilier sont des membres actifs du Conseil international Biodiversité et Immobilier qui a créé ces labels et qui permet de les faire évoluer, donc avec vos retours d'expérience. Qu'est-ce qui manque pour massifier? On l'a un peu esquissé. Et je crois qu'Anne Solange, vous avez une question pour Marianne Louis à ce sujet.
Oui, parce que Marianne Louis, vous indiquez dans une interview à Valeurs récemment que la maîtrise d'ouvrage doit se former au paysage et à la biodiversité, notamment les gestionnaires de résidences. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qu'est-ce que vous entendez par là?
Alors oui, vous posez la question de comment on passe maintenant à la massification. Moi, je pense qu'il y a trois aspects. Premier aspect, le modèle économique. Vous savez, le logement social est dans un modèle économique assez précis, avec des loyers plafonds, des modes de financement, des financements publics. Aujourd'hui, dans le coût de l'opération, ne compte que la construction, ne compte pas les espaces verts quand on va voir nos différents partenaires, pouvoir public, caisse des dépôts, etc. Donc il faut très, très clairement que l'aménagement des espaces extérieurs soit intégré dans le modèle économique de l'opération. C'est des échanges qu'il faut qu'on prolonge avec Action Logement, avec la Caisse, avec le ministère du Logement, qui sont nos financeurs, c'est-à-dire de dire nous, on livre des opérations dans lesquelles on a déjà prévu l'espace vert et on ne renvoie pas ça à plus tard, parce que plus tard, on ne sait pas quand et on ne sait pas avec quel niveau de qualité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, évidemment, c'est aussi une question de savoir-faire et de métier dans le monde HLM. On a un partenariat avec Valeurs, on participe également au Trophée du Paysage. Il y a maintenant des bailleurs qui sont candidats aux Victoires du Paysage. Ça, c'est important pour nous, parce qu'il y a déjà des bailleurs qui sont très engagés, mais il y a 600 bailleurs en France. Il faut généraliser cette appétence. C'est ce qu'on fait nous. Il y a deux ans, Valeurs était présent au congrès HLM pour présenter les métiers du paysage, c'est-à-dire vraiment dire à nos adhérents, intégrer dans vos équipes, dès le début, dans les projets, la dimension paysage. C'est des professionnels qui vont vous accompagner, notamment autour de ce qu'on a dit, c'est la question des usages. Et puis le dernier volet, c'est celui de la pédagogie. Moi, j'ai longtemps été élu local. Je sais que c'est... je crois que les esprits sont prêts, mais maintenant, il faut faire le dernier pas. Il y a deux problématiques de pédagogie. Il y a la première problématique, c'est la question des modes d'entretien, du fait que c'est pas toujours vert et beau. Tout à l'heure, je prenais l'exemple des jardins ouvriers. Tout le monde, quand on fait des perspectives et qu'on fait un concours, c'est toujours tout vert, un jardin ouvrier. Hein. Et tout le monde se dit « Ah, c'est super, je vais avoir du vert en bas de chez moi ». Bon, sauf qu'il ne faut pas se raconter des histoires. Un artichaut au mois de décembre, c'est moche. Hein, c'est fané, c'est... Non, mais si, c'est vrai, et c'est tout gris. Et donc, moi, j'ai connu des situations dans lesquelles les riverains venaient me dire « C'est n'importe quoi, c'est pas entretenu ». Je disais « Non, on est en décembre, c'est pas entretenu, c'est normal ». Je crois qu'il y a une pédagogie à faire sur cette question-là, de dire qu'un jardin, ça vit dans le temps. Voilà. Et puis, excusez-moi, je finis là-dessus.
Bien sûr.
Le deuxième aspect pédagogique, c'est ce qui a été un peu évoqué, et vous avez employé le mot, c'est cette question de comment les gens réapprennent à s'approprier ces espaces. On n'en fera jamais des professionnels, pas pour rien que les gens se forment pendant plusieurs années, voire dizaines d'années, mais en revanche, il faut qu'ils apprennent à s'approprier ces espaces. Et pour moi, c'est exactement la même question que l'Internet. Quand Internet est apparu, il y avait évidemment des informaticiens, donc c'était le métier de développer ces réseaux, etc. Et il y avait, en revanche, on a mis en place dans les quartiers, etc., les mairies, avec les centres sociaux, des médiateurs Internet qui aidaient les gens à utiliser leur ordinateur, à comprendre comment on va chercher, qu'est-ce qui est dangereux, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Ça a marché. Grosso modo, maintenant, une grande partie de la population sait utiliser ces outils numériques. Je pense qu'il y a des endroits où il faut remettre de la médiation à l'échelle des quartiers, des immeubles, comme on a pu le faire autrefois.
Merci beaucoup. Je renvoie nos auditrices et nos auditeurs à la lecture d'un article paru récemment dans Libération, puisque nous ne pourrons pas écouter Thierry sur ce sujet, mais sur ce que la crise a modifié dans les temporalités. Vous parlez, Marianne-Louis, de saisonnalité. Effectivement, un jardin, c'est moche, et ça fait du bien que les feuilles soient caduques, qu'elles tombent l'hiver, pour que la lumière puisse rentrer dans les bâtiments. Alors, c'est un challenge que je vous demande, messieurs, chacun en une minute, votre réponse sur le sujet, avant une conclusion par Michel Audouy.
Juste une petite réflexion. On a amené pendant la période du confinement la même typologie d'enquête que Thierry, tu as amené. On l'a amené en interne. On utilise une application qui interroge finalement les usagers de nos logements avec une application assez simple. Le critère numéro un qui est ressorti, c'est le souhait. Donc c'est finalement qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui pour le logement de demain. C'est la logia et ce qu'on appelle la pièce en plus. La pièce en plus, c'est une pièce finalement où j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire au moment où je vis et un logement qui soit plus modulaire. Donc, quelque part, ça veut bien dire que le logement, l'usage du logement change. Je vais revenir sur deux minutes sur cette histoire de se dire comment on peut finalement faire que cette nature en ville, ces jardins, soient acceptés. Je crois qu'il faut qu'on utilise les professionnels du métier. Parce que quelque part, je vais revenir moi un peu sur notre métier. Je viens de la construction. Fondamentalement, la construction. Quand on parle d'un projet, je vais être un peu caricatural, mais on parle du béton, on parle des corps d'état technique, on parle du carrelage et le lot VRD, et ensuite on va parler du lot espace vert. C'est-à-dire que le lot espace vert, il vient en dernier. Donc quand les choses viennent en dernier, en général, c'est là où il y a le moins d'argent pour
faire.
Quand c'est un lot à part entière. Donc moi, je pense qu'il faut le remettre sur le dessus de la pile et se dire finalement, fondamentalement, est-ce qu'on commence pas à réfléchir à l'espace vert autour, la façon dont cet immeuble va vivre, la façon dont ce quartier va vivre, et pour le climat et pour la biodiversité, et pour l'usage qu'on va en faire. Si on le met sur le dessus de la pile, on va éduquer effectivement nos collaborateurs, et si on travaille avec des professionnels, eh bien on va faire des quartiers plus verts et plus respirables.
Chiche, Thierry, qu'en dites-vous ?
Oui. Je pense qu'effectivement, je rebondis tout à fait sur ce que vient de dire Bernard, il faut partir d'un paysager partagé, parce qu'en fait ça fait un consensus à la fois chez les utilisateurs de bureaux, de commerce, de logements. C'est très demandé par les citoyens, il y a une demande citoyenne très forte. C'est un élément indispensable d'acceptation de nos opérations, puisqu'on n'en peut plus de tous les recours qu'on peut avoir, et le fait qu'on soit un pays où il faut des années pour produire, alors que l'amélioration qualitative du logement doit participer à tous et profiter à tous. Je pense que cet aspect-là fait que dans les concours, on doit systématiquement intégrer des professionnels des espaces verts. On le faisait avec les architectes, ensuite on a intégré des sociologues, des philosophes, des chercheurs. Il faut qu'on intègre ces professionnels des espaces verts. On le fait maintenant systématiquement dans nos grands projets.
Vous en avez un à votre droite qui va rejoindre son siège pour une minute de conclu avant que nous remercions toutes et tous avec Anne Solange. C'est Michel Audouy.
Merci Pierre. Toutes ces interventions nous montrent que la nature en ville, ça se pense, ça se dessine, ça s'organise et ça s'accompagne dans le temps. L'intervention de Thierry Pacaud nous a éclairé historiquement sur cette nature en ville. C'est essentiel, cette connaissance, pour imaginer à notre époque des formes peut-être nouvelles de la nature en ville, loin d'une nature fantasmée et dogmatique. Pour ça, il faut des projets. Ça va d'un plan local d'urbanisme à l'aménagement de parcs, de l'accompagnement des infrastructures au maintien de jardins et de cours particuliers dans un habitat dense. Là, je m'adresse notamment à Bouygues Immobilier. La nature en ville, ce n'est pas un programme abstrait, excessivement rousseauiste. C'est un projet social, culturel, technique et même économique. Merci.
Merci Michel. Anne Solange, le mot de la fin pour vous. Merci en tout cas.
Merci à tous d'avoir été là. Et on voit que en fait, la ville évolue et évolue dans le bon sens. Tant mieux. On peut tous s'en réjouir.
Merci. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, rendez-vous dans 10 minutes à 12h05 pour la deuxième émission avec les femmes en particulier et les hommes qui ont élaboré les stratégies RSE qui ont conduit à l'intégration de la biodiversité et in fine des paysages dans les projets. Merci à toutes et à tous. Merci Marianne-Louis. Merci Thierry Pacaud. À distance, ça n'est pas évident. Et Thierry, vous avez relevé brillamment ce défi. Merci Bernard Mounier. Merci Thierry Laroupon. Anne Solange, ce fut un plaisir pour une première.
Merci Pierre. Oui, à recommencer.
Et à très vite sur les antennes de Radio Immo et Radio Territoria.
Pour une ville nature, un cycle Cité Verte Europe organisé par Valor. Une campagne financée avec le concours de l'Union européenne. À retrouver sur Radio Immo, Radio Territoria et toutes les plateformes de streaming.